Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des aventures d'Herminiel. Tombe là qui est sans dessus dessous. Maya Delic a disparu. Mazar a flairé une piste. Laquelle des trois petites filles rousses du village a-t-elle été la dernière à côtoyer Maya? L'enquête de Mazar devrait se dérouler le plus merveilleusement du monde. Vraiment? Belle écoute. Le ton était menaçant. Dans un premier temps, Casso n'avait pas bien compris ce que souhaitait Ottavio Delic, le chef du camp. Cette conversation houleuse se déroula sur le pas de porte de la maison du maire. Delic, blême, tendait son coup de taureau par-dessus l'épaule de l'élu. Il aurait clairement aimé rentrer, mais Casso ne l'évia pas d'un pouce. Une jeune fille avait disparu, celle-là même qui lui avait lu les lignes de la main. Casso tenta d'apaiser son interlocuteur. La gendarmerie allait être prévenue et s'il le fallait, on organiserait une battue. « Vous croyez qu'on vous a attendu pour ça ?» gronda Delic. En effet, il n'avait pas fallu longtemps à la petite troupe pour se mettre en quête de la jeune Maya. Par groupe de deux ou trois, depuis tôt le matin, ils avaient commencé d'écumer les alentours. Ils escaladaient les murets, forçaient les portails des jardins, semant une belle pagaille. À la fois inquiets et mécontents, les villageois volontaires, sous la houlette de Mazar, réorganisèrent ses recherches en bonne et due forme. On indiqua à chacun le secteur à contrôler. La vieille Germaine Cassier commença de brailler qu'ils avaient volé une de ses poules, la Noiraude en plus. Il fallut toute la diplomatie de Casso pour l'apaiser. Sur les coups de midi, comme les recherches s'avéraient infructueuses, Mazar sonna le rassemblement de ses troupes. Entre Romanichel et Tombelassien, la tension montait. Ottavio Delic, bon gré mal gré, accepta un entretien avec Mazar et Casso. Mazar exigea de visiter la caravane de la jeune Maya. Sur le marchepied, semblant monter la garde, se tenait le jeune guitariste de la veille, le frère de la disparue, comprit-on. La grand-mère, recluse dans un coin, égrenait son chapelet. Mazar entreprit de poser les questions d'usage. On apprit que Maya s'était couchée sur les coups de 1h du matin. Personne n'était vraiment certain de cette information. Elle fut donc acceptée comme approximation. La grand-mère, entre deux sanglots, expliqua qu'à son réveil, environ vers 5h, sa petite fille n'était pas dans sa couchette. Elle était sortie et l'avait appelée, tirant ainsi du sommeil une bonne partie du campement. Mazar notait scrupuleusement ces informations dans son carnet. En aparté, il confia à Casso qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. La fille allait réapparaître sans crier gare, avec ces gens-là de toute façon. Néanmoins, Casso demeurait sur ses gardes. Il lui avait semblé que Delic s'était montré particulièrement menaçant à son égard, comme si il eût quelque chose à voir dans la disparition de la jeune fille. Il trouvait au chef le regard soupçonneux et ne parvenait pas à se défaire de cette impression. Comme Casso et Mazar s'apprêtaient à repartir, promettant à Delic de reprendre les recherches après le repas, un gamin, la bouche barbouillée de chocolat, tira Casso par la manche. Ses gens n'avaient donc cesse de la gripper, songea-t-il agacé. Le gamin tenait quelque chose entre ses mains, une mèche de longs cheveux roux, et baragouinait dans son dialecte. Mazar lissa sa moustache et se pencha. Delic, sourcils froncés, traduisit. Il dit qu'il a trouvé ça sous le marchepied de la caravane de Maya. Casso fronça à son tour les sourcils. Il n'avait remarqué personne de roux parmi les Romanichel. Delic se dressa de toute sa stature. Le Minotaure, pensa Casso. Ça appartient à quelqu'un de chez vous. Évitons les conclusions hâtives, objecta Mazar. Des tonnes de gens ont les cheveux roux. À peine eut-il le temps d'achever sa phrase que Derrick l'avait saisi par le col et quasiment soulevé du sol. « Écoute, Gadjo, je me fous de tes conclusions hâtives. T'as sacrément intérêt à retrouver toutes les routekines du secteur où je m'en charge moi-même. » Rejeté sur le plancher des vaches, Mazar s'épousseta. Il se retint de prononcer la phrase rituelle « agression contre un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions ». Casso leva la paume de sa main vers Delic. « Soyez assez aimable pour nous laisser une partie de cette mèche. Nous allons mener notre enquête. » Delic s'exécuta, puis passa discrètement son index le long de son cou en fixant Casso. Il fallut bien se rendre à l'évidence, aucun des adultes de Tombelac ne possédait des cheveux roux et longs. Restaient trois fillettes. La petite Mathilde Provel, fille de la veuve Provel, Sophie, accueillie chez la veuve, et Sylvie, la fille de Madame Lemereur, la femme de service. Mazar, désormais détenteur de la pièce à conviction, l'avait enroulée dans son mouchoir de poche. « Ça va faire un foin de tous les diables, cette affaire, » grommela Casso. « Comme si on avait besoin de ça. Et puis, ça veut rien dire. Le gamin prétend qu'il a trouvé cette mèche sous le marchepied. Mais il peut mentir. Pour quelle raison, je ne sais pas. »« Peut-être pour couvrir quelqu'un, » suggéra Mazar. « C'est possible. D'autant que je n'imagine aucune des trois fillettes se rendre seule en pleine nuit sur le campement. Ça n'a aucun sens, » renchérit Casso. Quoi qu'il en soit, Mazar se vit dans l'obligation de convoquer Sophie Marshall, Mathilde Provel et Sylvie Lemereur. Les trois petites, serrées l'une contre l'autre, patientaient dans l'enceinte de la gendarmerie. Coussargue, malgré sa grosse voix, tenta de se montrer gentil en leur proposant des malabars qu'elles refusèrent. Elle lui faisait pitié, ces trois gamines. Madame Provel, raide et digne, plaquait son minuscule sac à main en croco sur ses genoux serrés. Elle fulminait intérieurement. La fille de feu, le colonel Provel, convoquée par les gendarmes pour une affaire concernant des Romanichels, on aurait tout vu. Sitôt rentrée, elle allait rédiger un courrier au ministre des armées, et on verrait bien ce qu'on allait voir. De temps à autre, elle lançait un regard suspicieux à l'attention de Marie-Louise Lemereur, tête baissée, qui pressait la main de sa fille Sylvie. Mazar invita Madame Provel à pénétrer dans son bureau. Il y mit les formes. Une veuve de colonel, ça se traite par la délicatesse. Coussargue, impressionné, se tenait droit devant la machine à écrire. Prolongeant les politesses d'usage, Mazar entra enfin dans le vif du sujet. Il déroula le mouchoir de poche contenant le fameux bout de mèche. Les deux petites pelotonnaient l'une contre l'autre, ouvrait de grands yeux apeurés. Mathilde ne pleurait pas, mais Sophie commençait de sangloter. Madame Provel fulminait. Ces deux gamines n'avaient rien à voir avec ces maudits Romanichels. Mazar s'excusa encore, invoquant la procédure. Il demanda à Sophie de se lever, approcha la mèche de cheveux. La fillette jeta un regard affolé vers Madame Provel. D'évidence, la mèche ne lui appartenait pas. Sa chevelure était certes du plus beau roux, mais extrêmement bouclée. Mazar lui tapa sur l'épaule et la félicita, sans que l'on sache bien pourquoi. Il fit ensuite lever Mathilde, qui s'exécuta de mauvaise grâce. Madame Provel l'encouragea d'un signe de tête. Les cheveux de Mathilde étaient beaucoup plus clairs, de ce blond dit vénitien. Mazar poussa un soupir de soulagement, se confondit en excuses, invoquant de nouveau la procédure et raccompagna ce petit monde. Restait la fille Lemereur. En ce sens, cela arrangeait Mazar. Cela ferait moins d'esclandre. D'emblée, sans avoir effectué la comparaison, il sut que la chevelure de Sylvie Lemereur était la bonne. Néanmoins, il recommença le processus approcha la mèche et tout sauta. « Madame l'émereur, pouvez-vous me dire où se trouvait votre fille la nuit dernière entre 1h et 5h du matin ?» Madame l'émereur le foudraya du regard. « Dans son lit, où voulez-vous qu'elle soit à 1h pareille ?» Sylvie se mit à sangloter. Marie-Louise l'émereur tenta de l'apaiser. « Vous voyez ce que vous lui faites ? Nous n'avons rien à voir avec cette affaire. » Elle se leva d'un bond et fit face à Mazarin. « C'est trop facile de nous faire porter le chapeau, à nous autres, les pauvres gens. On se croit en République, mais jamais rien ne change. » Coussade jeta un regard inquiet vers son supérieur. Avant que Mazarin n'ait eu le temps de réagir, Madame Lemereur lui arracha la mèche des mains. « Madame !» commença Mazarin tandis que Coussard s'était levé. Mais Madame Lemereur tenait haut la mèche dans la lumière de la fenêtre. « Regardez mieux avant de nous accuser, nous autres. » Les deux gendarmes obtempérèrent. « Vous ne voyez donc pas que cette mèche a purement et simplement été coupée, non pas arrachée ? C'est peut-être une mèche de ma pauvre Sylvie, mais cela ne prouve rien. » Elle tendit la mèche à Mazarin qui l'examina de plus près. « Vous voyez ?» déclara encore Madame Lemereur en pointant la pièce à conviction. « On remarque bien une coupe franche, un coup de ciseau. Votre coupable ne se trouve pas dans cette pièce. Bien le bonjour, messieurs. »« Une petite minute, Madame Lemereur. Nous avons bien admis qu'il s'agit d'une mèche de cheveux de votre fille. Mais maintenant, j'aimerais savoir par qui et dans quelles circonstances cette mèche a-t-elle été coupée. Tu peux m'en dire plus, Sylvie ? Tu n'as rien à craindre. » Sylvie épongea ses yeux et refusait de répondre au capitaine. Un peu radoucie, Madame Lemereur l'encouragea à livrer toute la vérité. Sylvie se moucha, renifla, mais déclara qu'elle n'en savait rien, qu'elle n'avait rien à dire. « Voyons, insista Mazarin, quels sont tes petits camarades à l'école ?»« Notre condition ne permet hélas pas à Sylvie d'avoir des petits camarades, » trancha Marie-Louise Lemereur. À ce sujet, il devrait y avoir une loi pour empêcher les enfants de se moquer les uns des autres. Puisque je suis là, je vais vous dire, capitaine, depuis son arrivée à Tombelac, ma fille sert de souffre-douleur à tous vos charmants bambins. Voilà la vraie vérité. Comment voudriez-vous qu'elle ait des amis ? Remarquez, ça lui laisse le temps pour étudier. Un jour, elle les surpassera tous, vos affreux gamins pourris gâtés. « Allons, allons, Madame Lemereur, je n'avais pas connaissance de cette situation. Comprenez bien que je suis vraiment désolée de ce que j'apprends. Je vous promets d'en toucher deux mots à mon fils et à Mademoiselle Virginie. Ça sera pire. Ils vont la traiter de rapporteuse, sans compter notre passage dans vos locaux. Si vous croyez que les choses vont s'arranger, vous vous fichez le doigt dans l'œil, capitaine Mazarin. J'entends bien votre indignation, Madame Lemereur, mais vous comprenez bien que je dois mener cette enquête. Nous devons savoir où est passée cette petite gitane, et la seule piste que nous ayons est la mèche de cheveux de votre fille. Allons, Sylvie, si tu as quelque chose à dire, c'est le moment. » Sylvie secoua la tête. Mazarin soupira. « Si un adulte t'a fait du mal et que tu as peur de parler, ne t'inquiète pas. Nous sommes là pour te protéger. Tu peux parler sans crainte. » À nouveau, Sylvie secoua la tête. « Écoute, Sylvie, une jeune fille est portée disparue, c'est très grave. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autre indice que ta mèche de cheveux. Ça ne fait certainement pas de toi une coupable, mais tu es, en quelque sorte, le principal témoin de cette affaire. Quelqu'un voudra peut-être t'empêcher de parler et... » Madame Lemereur intervint. « Si Sylvie court un quelconque danger, j'espère que nous aurons droit à votre protection, capitaine. » Mazarin lissa sa moustache et lança un coup d'œil vers Coussargues. « N'ayez aucune inquiétude, Madame Lemereur. Deux de nos agents vont se relayer devant votre demeure jusqu'à éclaircissement du problème. Ça vous convient comme ça ?» Madame Lemereur avait saisi Sylvie par les épaules. « C'est la moindre des choses. Dans ce cas, vous comprendrez, Madame, que si votre fille doit nous dire ce qu'elle sait, Sylvie se dégagea du bras maternel. « Je ne sais rien du tout. Je ne comprends rien du tout à cette histoire. » Puis, tournant un regard implorant vers sa mère. « J'en ai assez, maman. Je suis fatiguée. Je veux rentrer maintenant. » Je ne vous apprendrai rien. La spécificité des petites bourgades est la rumeur et le « on », un serial killer. À peine la petite Sylvie Lemereur sortie de la gendarmerie, on en fit la coupable idéale. Sa mère était une entremetteuse. Elle volait des jeunes filles pour les vendre à des réseaux de prostitution en Afrique du Nord. D'ailleurs, on l'avait souvent vu discuter, tard le soir, avec des types, à l'air plutôt louche. On savait que Sylvie Lemereur, avec ses airs de ne pas y toucher, servait d'appât. Si elle revenait à l'école, on retirerait ses propres filles. Ce « on » délétère ne tarda pas à parvenir aux oreilles de Délic. De fait, on dut augmenter la protection de la famille Lemereur. Casso dut réunir le conseil pour rédiger un avis spécial à la population. La vieille Germaine Cassier exigea que sa noiraude lui fût rendue sur l'heure. Tombelac, chamboulé et confus, entra dans une période sombre. J'espère que l'écoute de ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, merci de le faire savoir autour de vous et de laisser un petit commentaire. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Herminie L intitulé « Suspicion » au pluriel. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Au revoir.